On va continuer notre série d'enseignements sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. Alors, le but de tout cela, c'est vraiment de refléter le Christ dans notre caractère et dans notre vie. Quand on regarde l'ensemble des disciplines, à l'heure actuelle, on en a vu six. On a regardé les cinq choses qu'on peut faire avec les Écritures, les lire, les écouter, les méditer, les mémoriser, les étudier. On a regardé ça dans des leçons, au moins deux leçons par sujet. On a regardé la prière. Ce soir, on va regarder la discipline de l'adoration. Des fois, on pense qu'on sait c'est quoi l'adoration. C'est surprenant si on demandait à chacun, on avait le temps, on pourrait prendre une définition que chacun pourrait nous donner de ce qu'il croit ou de ce qu'elle croit que c'est l'adoration. C'est un sujet qui est d'une importance vraiment capitale et les Écritures nous disent que c'est un de nos principaux devoirs envers Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de confusion et d'ignorance sur ce sujet-là. Pour la bonne raison qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi l'adoration. Beaucoup de gens pensent que l'adoration, c'est juste quand on vient à l'Église et qu'on chante en commun et qu'on entend un sermon et qu'on parle de Dieu, ou quand on vient le mercredi soir à la soirée de prière, il y a de l'adoration. Ou quand on fait un petit culte chez nous, le moment qu'on prend là, pour adorer. Mais ça, c'est l'idée qu'on a généralement de ce que c'est l'adoration. Pourtant, l'adoration, c'est quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup plus large que ça. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu. Alors, c'est plus que les louanges individuelles, plus que les louanges en Église. Il y a vraiment une méprise quant à la nature de l'adoration et de l'ignorance quant à son étendue, autrement tout ce que ça comprend. Je me souviens la première fois, mais dans le temps, j'étais dans une autre église, il y avait un frère chrétien qui venait d'une autre église et il venait nous rendre visite à une église baptiste. Puis il nous disait souvent, « Vous autres, les baptistes, vous adorez pas. » Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par « vous adorez pas » Parce que eux, le dimanche matin, ils ont l'habitude que les gens se lèvent et ils vont louer le Seigneur pour une bénédiction qu'ils ont reçue. Mais tu sais, ils ont un temps, autrement dit, où ils vont publiquement dire des louanges au Seigneur. Et pour lui, l'adoration, c'était ça. Mais à un moment donné, j'ai fait prendre conscience que l'adoration, c'est beaucoup plus que ça. Parce que si tu prends les mots dans leur la définition, selon les Écritures, de ce que c'est l'adoration, vous regardez ceux qui ont les feuilles, là, c'est à la page 2, l'adoration définie. C'est des mots grecs, il y en a au moins 4 qui sont utilisés pour parler d'adoration. Et ils sont importants qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Quand on regarde ce que ça veut dire, c'est là qu'on commence à comprendre l'étendue de ce que c'est l'adoration. Parce qu'on pense qu'on sait c'est quoi, puis dans le fond, on ne le sait pas tant que ça. Un des mots qui est utilisé, c'est proskuneo. Proskuneo, ça veut dire pros, ça veut dire vers, cuneo, ça veut dire embrasser. Autrement dit, ça veut dire ployer le genou devant ce que Dieu dit. C'est là qu'on voit que c'est beaucoup plus large que juste ce qu'on vient le dimanche, ou qu'on vient le mercredi, ou qu'on fait dans nos petits cultes, soit individuels ou soit familiaux. Ployer le genou devant Jésus, devant Dieu, ça veut dire que peu importe ce que Dieu dit sur quelque sujet que ce soit, tu ploies le genou. Ployer le genou, ça veut dire que tu reconnais que ce que Dieu te demande, c'est correct, c'est exact, c'est parfait. Alors, l'idée de se prosterner devant Dieu et de ployer le genou devant sa volonté en toute chose. Ça, c'est un aspect de l'adoration. Un autre, c'est le mot grec « sebomai », l'idée d'une crainte révérentielle. Une crainte révérentielle, ça veut dire qu'on craint Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut faire dans notre vie. Un autre mot, c'est « latreo », c'est l'idée de servir religieusement. Et il y en a un autre, c'est Eusebio, c'est agir pieusement. Donc, on voit qu'il y a plus qu'une idée. Il y a l'idée de ployer le genou devant ce que Dieu dit, Soyez de genoux devant la personne même de Dieu d'abord, ensuite sur tout ce qu'il dit, et aussi agir en conséquence. Alors, adorer, ceux qui ont les feuilles, vous regarderez à la dernière page, vous allez voir que le grand théologien du 19e siècle, qui s'appelait John Gill, a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Moi, je les ai toutes prêchées, toutes les affaires qu'il y a là, je les ai toutes prêchées, 150 leçons de John Gill, mais il n'y a pas 150 leçons sur l'adoration, mais il y en a au moins 25. Quand on regarde la liste, lui, il divise l'adoration en deux catégories. Ce qu'il appelle l'adoration intérieure. Et là, si vous regardez dans la colonne de gauche, pour ceux qui ont les feuilles, vous avez l'objet de l'adoration, la piété, la connaissance de Dieu, la repentance envers Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Dieu, la confiance en Dieu, la grâce de l'espérance, la grâce de l'amour, la joie spirituelle, la paix et la tranquillité d'esprit, le contentement, la gratitude, l'humilité, la négation de soi, la résignation à la volonté divine, la patience, la fermeté chrétienne, le zèle, la sagesse, la prudence, la sincérité, la disposition aux choses naturelles, la bonne conscience et la communion avec Dieu. Quand vous regardez ça, là, là, ça a l'air juste des titres, là. Mais chaque leçon qu'il y a là, tu peux en parler pendant une heure. Et lui, il dit que l'adoration, c'est tout ça. C'est la patience, c'est la négation de soi. Autrement dit, l'adoration, c'est toute la vie au complet, dans tous les moindres détails. Ce que Dieu dit, reconnaître qui il est, ployer le genou devant lui et lui obéir. Autrement dit, c'est toute la vie au complet, l'adoration. Alors, si tu feras juste adorer le dimanche matin ou le mercredi soir, tu passes à côté. Parce qu'adorer, c'est toute ta vie. Et ça implique d'autres formes d'adoration, ce qu'on va voir tantôt. Alors, il divise ça, l'adoration intérieure, qu'il appelle l'adoration privée. Autrement dit, ce qu'on fait chez nous quand il n'y a pas de témoin, quand on n'est pas avec d'autres frères, on ne fait pas les choses avec d'autres personnes, on les fait tout seul. Puis tu as l'adoration extérieure, qui est surtout une forme d'adoration publique. C'est là ce qu'on fait quand on vient à l'église. Alors, l'adoration publique en église, c'est l'église évangélique. Les devoirs des membres les uns envers les autres. Vous imaginez-vous si on ferait une leçon pour donner en détail qu'est-ce que c'est les devoirs qu'on a les uns envers les autres? Ben l'adoration, c'est quand on les met en pratique, ces choses-là. Puis quand on les met pas en pratique, on n'adore pas, on pêche. Ensuite, il y a les devoirs que vous avez envers les pasteurs, envers les anciens, les devoirs que vous avez envers les diacres, la discipline d'église, ça aussi, c'est Dieu dit comment on se doit agir face à certains problèmes qu'on rencontre dans les églises. Et une église qui ne fait plus de discipline, ben, elle n'obéit pas à Dieu. Donc, sur cet élément-là de l'adoration, elle est complètement en dehors de la traque. Ensuite, il y a tout ce que Dieu dit par rapport aux ordonnances et au culte. Le repas du Seigneur, ça ne doit pas se faire n'importe comment. On pourrait en parler des heures, juste sur cet item-là. Le baptême, est-ce qu'on fait n'importe quelle sorte de baptême ou si on se doit d'être encadré et de respecter la forme que Dieu veut qu'on fasse un baptême par immersion, un baptême d'un croyant seulement, etc. Là. Ensuite, il y a la prédication, il y a l'écoute de la parole, il y a la prière publique, le Notre Père, le chant des psaumes, des cantiques, l'endroit et l'heure des cultes, les devoirs des maris et des épouses l'un envers l'autre. Quel sujet vaste! On pourrait en parler, et c'est ça l'adoration. Si tu accomplis les devoirs que Dieu te demande comme époux envers ton épouse, tu adores. Et quand l'épouse fait la même chose envers son mari, elle adore. Alors, l'adoration, c'est beaucoup plus que venir au culte, là, que on peut voir. Les devoirs des magistrats envers les magistrats. Quand on se promène sur la route, puis qu'on s'en va à 120, puis qu'il y a des panneaux qui disent 90, ben adorer, c'est s'en aller à 90. Parce que tu obéis aux lois des hommes, mais le Seigneur te dit que si c'est pas contre que tu dois obéir aux lois des hommes. Voyez-vous, l'adoration, c'est vraiment l'obéissance à Dieu, c'est vraiment ployer le genou, c'est vraiment reconnaître qui il est, tous les droits qu'il a, et de les reconnaître et de leur obéir. C'est aussi les bonnes œuvres en général et les 10 commandements. Comme vous pouvez voir, là-dedans, ça comptera au moins 30 leçons, j'ai fait 30 sermons d'une heure là-dessus. C'est ça l'adoration, c'est toutes ces choses-là, dans les détails, avec tous les versets que les Écritures nous amènent pour nous montrer. Alors, quand on pense que l'adoration, si je suis certain qu'on ferait le tour d'une église de 100 membres, on prendrait les gens un par un, puis il ne sera pas gêné de dire qu'est-ce que c'est. Pour toi, l'adoration, c'est quoi? Vous verriez que les réponses, ils tourneraient toujours autour de aller au culte, chanter des louanges, aller à la soirée de prière, faire notre culte personnel, faire notre culte en famille. Ça reviendrait toujours autour de ça. Alors que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Alors, l'adoration, elle comporte deux facettes, l'adoration intérieure qui est individuelle, et ça comprend, ça implique absolument tous les actes de la vie du croyant. Et ça comprend aussi l'adoration collective qui se fait en public et qui se fait en église locale. Ça comprend les deux. Mais quand, si vous regarderiez tout ce que j'ai mentionné tantôt, là, vous vous rendriez compte qu'il y a plus que 90% de l'adoration qui se fait individuellement dans nos vies privées. Alors, il y a bien des choses que je ne sais pas ce que vous faites chez vous. Est-ce que vous faites un culte personnel à tous les jours? Si vous êtes un couple, faites-vous un culte de couple? Si vous êtes une famille, faites-vous un culte de famille? C'est ça l'adoration et plein d'autres choses. Alors, le tableau à la fin était là et je vous l'ai donné pour se débarrasser de l'idée que l'adoration, c'est uniquement, ça se passe uniquement à l'Église. Ou quand on est tout seul, qu'on fait un culte au Seigneur. Alors, l'adoration, ça peut être deux choses. Les Écritures nous en parlent comme étant un devoir. Et on a raison de dire que c'est un devoir. On se doit d'adorer Dieu, plus particulièrement. Tous les êtres humains se doivent d'adorer Dieu. Mais d'une façon particulière, les chrétiens. Vous avez été sauvés du Seigneur, vous avez eu la vie éternelle, vous avez eu le pardon de vos péchés. Et malgré tout ça, bien souvent, les gens ne vont pas à leur culte, ne font pas de culte personnel, ne font pas un culte en famille, ne font pas un culte de couple, etc. Alors l'adoration, c'est une reconnaissance de Dieu quant à ce qu'il est, Dieu, quant à ses attributs. Prendre conscience de qui Dieu est, là, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de connaissances. Et quand on commence à comprendre qui Dieu est, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Comment ça se fait que dans les églises, on adore si peu, qu'on manque les cultes pour toutes sortes de raisons plus ou moins valables? C'est parce qu'on n'est pas conscient de ce que Dieu nous a donné, de sa grandeur et ce qu'il mérite et qu'il est digne de l'adoration et on ne l'adore pas selon ce qu'il nous demande. Alors, quand on regarde adorer, c'est mettre le focus sur Dieu et aussi répondre à Dieu de ce qu'il nous commande dans les Saintes Écritures. Prenons Apocalypse 4, versets 8 à 11. Et les quatre animaux avaient chacun six ailes, et alentour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Et ils ne cessaient jour et nuit de dire, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et jetaient leur couronne devant le trône en disant, « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » Quand on disait jour et nuit, vous prenez les gens qui sont déjà dans la présence de Dieu et ils n'arrêtent pas de dire Dieu qui qu'il est et d'être émerveillé jour et nuit, comme ça dit, devant ces choses-là. Juste un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, on a Apocalypse 5, versets 12 à 14. Il disait à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer et toutes les choses qui y sont, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre animaux disaient « Amen ». Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Dieu est le Dieu trois fois saint. Quand on dit « tout-puissant » dans les Écritures, on utilise l'expression « Dieu tout-puissant ». Mais on ne s'arrête pas à mesurer un peu ce que les mots veulent dire. Dieu est tellement grand et tellement, il a tellement fait de choses pour nous que la moindre des choses qu'on devrait lui faire à tous les jours de nos vies, c'est de l'adorer. Puis combien, moi je peux vous le dire par expérience, ça fait quand même 40 ans que je suis chrétien, j'en ai vu toutes les couleurs. Je peux vous dire une chose, les chrétiens, beaucoup de chrétiens n'adorent presque pas. Au moins prendre un temps d'adoration individuelle, t'arrêter le matin, prendre un temps avec tes Écritures et mettre ton esprit devant Dieu et reconnaître ses grandeurs et être émerveillé par ce qu'il a fait pour toi. Tout le monde devrait faire ça à tous les jours. Pourtant, les gens sont tellement occupés aujourd'hui, ils ont l'activité aiguë, ils n'ont même plus le temps de prendre un temps pour adorer le Seigneur. C'est un fait, ça. Un autre fait, c'est que quand on est marié, on se devrait de prendre un culte en couple pour faire la même chose. Donc Dieu veut qu'on le fasse individuellement, mais Dieu veut aussi qu'on le fasse en couple. Je ne sais pas si c'est quoi votre expérience là, avec les autres chrétiens que vous connaissez, ceux qui le font, combien qu'il y en a de couples qui font ça? J'ai bien peur que il n'y en a pas tant que ça. Ceux qui sont des familles, le culte en famille, là, vous en parlerez à n'importe quel pasteur de l'association, là, je vous mets au défi, là. Puis vous leur demanderez, selon votre expérience avec votre groupe, là, on est 7 églises dans l'association, là, avec votre groupe, là, quels sont ceux de votre groupe qui font des cultes en famille? Le père de famille, c'est sa responsabilité. Et le mari, dans un couple, c'est lui qui a la responsabilité de créer le culte et de l'entretenir. S'il ne le fait pas, il est manquant. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, Dieu est trois fois saint, il est tout puissant, il est le créateur, il est celui qui soutient l'univers par sa parole puissante, il est le souverain, le Dieu souverain qui contrôle absolument toutes choses, comme on a parlé dimanche. Le juge, il est le juge, et il est infini dans chacun de ses attributs. Prenez les attributs, on peut les classer, disons, en général, disons, on peut les alentour, une autre alentour de 25. Mais quand vous prenez un attribut, vous parlez d'un attribut, la bonté, la sagesse, la miséricorde, la grâce, etc., et que vous parlez d'infini, ça veut dire que jamais on ne découvrira la profondeur, la richesse, l'étendue de chacune des qualités de Dieu. L'éternité elle-même ne suffira pas. Alors, un Dieu si grand, qui est si peu adoré, ça vous sonne-tu une cloche? L'adoration, cependant, elle est demandée. Parce que quand on regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 4, verset 10, alors Jésus lui dit, ici c'est dans le cadre que Satan s'adresse à Jésus, il lui demande de l'adorer, Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Dans le psaume 95, verset 1 à 6, « Venez, chantons à l'Éternel, jetons des cris de joie au rocher de notre salut. Présentons-nous à lui avec des louanges. Offrons-lui nos joyeux cantiques. Car l'Éternel est un Dieu grand. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est dans sa main que sont les abîmes de la terre. À lui sont les sommets des montagnes. À lui appartient la mer, car il l'a faite, et ses mains ont formé la terre. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Et on pourrait en sortir des milliers, des centaines au moins, de versets qui nous demandent d'adorer Dieu. Et malheureusement, le Seigneur nous dit qu'il est possible qu'on adore Dieu, mais pas selon les exigences bibliques. Alors, quand on parle du monde dans la grande chrétienté, là, si on inclut toutes les dénominations, là, c'est supposé d'être au-delà d'un milliard de personnes. Sur ce milliard-là, là, combien de personnes vous croyez qui obéissent aux ordres d'adoration selon les critères que Dieu nous donne? Parce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 15, versets 7 à 9, que c'est possible d'adorer et que ça ne vaut rien. Parce qu'il nous dit, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Autrement dit, sur l'ensemble de tous les chrétiens, du moins qui se disent chrétiens de la terre entière, il y en a une très, très grande quantité qui n'adore pas selon les Écritures. Et le Seigneur nous dit carrément, ils adorent en vain. C'est comme s'ils n'avaient pas adoré du tout, parce qu'ils ne le font pas selon les Écritures. Alors, de quelle manière on peut adorer? On peut adorer de beaucoup de manières, à travers la création de Dieu. Sûrement que ça vous est déjà arrivé. Vous allez sur le bord du lac. Moi, quand je vais au lac, là, puis qu'il fait beau, là, puis que le lac est calme comme un miroir, là, et qu'on voit le soleil se lever ou se coucher, qu'on regarde ça, notre cœur vient tout à l'envers. On reconnaît Dieu dans sa création, comme ça dit dans Romains. On voit Dieu dans sa création. On le voit dans les fleurs. On le voit dans les montagnes. On le voit dans la mer, quand on va sur le bord de la mer. On le voit dans les animaux. On le voit dans tellement de choses, dans toute sa création, on le voit. Alors, on peut adorer sur le bord du lac. Seigneur, c'est beau ce que tu fais. Tu es le Créateur, tu es... Et là, on peut partir en louange, et il faut le faire. Il ne faut pas se gêner là, pour s'émerveiller devant ce que Dieu fait. Là. Romains 1, justement, versets 19 à 21. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Donc, on peut l'adorer dans la création, on peut l'adorer aussi à travers la parole de Dieu. Ça, c'est fort probable que ça vous est déjà arrivé, que vous lisez votre écriture et qu'à un moment donné, il y a un verset, on dirait qu'il nous saute d'en face. On dirait qu'on reconnaît la perfection, la gloire de Dieu, la grandeur de son œuvre, son intelligence, sa bonté, sa grâce et plein d'autres choses. On lit et on est comme saisi. Et c'est là un moment pour nous de prier. Tout en lisant les Écritures, on loue et on reconnaît la grandeur de Dieu. Donc, on peut le lire à travers la parole. Parce que ça nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, « Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. « Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine. Mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Quand on dit, quand on ouvre la Bible, des fois, on prend le livre et on dit c'est la parole de Dieu. Mais il y a des fois que quand on la rouvre, qu'on est attentif et qu'il n'y a pas trop de distractions autour de nous, on dirait qu'on comprend davantage que c'est vraiment Dieu qui nous parle à travers les écrits qui sont dans le livre, qui nous parle à travers sa parole. À travers maintenant, bien entendu, on peut adorer à travers la personne de Jésus-Christ. Jean 1, verset 1 et 2, verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Hébreux, chapitre 1, verset 1 et 2. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Donc la parole de Dieu, la création, la personne de Jésus-Christ, aussi à travers les hymnes et les cantiques spirituels, moi, je suis convaincu que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé des centaines de fois. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, là, ils font probablement le Saint-Esprit, on est en train de chanter un chant. On dirait que d'un coup sec, on comprend les mots qui sont là et qui sont d'une richesse et d'une profondeur et d'une beauté que notre cœur, il vient vibrant. Il pense au Seigneur, il pense à ce qu'il est en train de chanter. Et on devient tellement ému que souvent, on peut aller jusqu'aux larmes. Ça arrive assez souvent. Et ça peut arriver aussi à travers l'écoute des sermons. Si vous avez déjà été touché par des sermons de façon particulière, c'est l'Esprit de Dieu qui permet que vous soyez touché, soit par une parole, soit par un verset qui a été amené. Il y a des fois que ce que les pasteurs amènent en avant, ils ne se rendent même pas compte jusqu'à quel point ils t'influencent. Moi, je me souviens de certaines choses qui m'est arrivées dans ma vie chrétienne, de pasteurs qui sont arrivés avec des idées qui ont changé ma vie, puis eux, ils ne savent pas. Mais est-ce que c'est le pasteur qui a changé ma vie ou si c'est la parole de Dieu que Dieu a permis que je comprenne? Moi, je pense que c'est la parole de Dieu que Dieu a permis que je comprenne. Mais Dieu peut te parler à travers les sermons et c'est aussi une occasion d'adorer. Tu peux entendre un sermon des fois puis dire « Oh, c'est vrai Seigneur, je n'avais jamais vu ça sur toi. Quel glorieux Seigneur tu es, quel glorieux Dieu tu es. » Ça t'amène à l'adoration, ça t'amène à ployer le genou devant lui dans ce qu'il a fait. Maintenant, deuxième point qu'on va regarder, l'adoration, ses exigences. On ne rentrera pas dans le sujet aujourd'hui, mais juste mentionner que la prochaine fois, on va parler de l'adoration, ses exigences. Autrement dit, qu'est-ce que ça prend pour adorer? Est-ce qu'une personne qui est non convertie peut adorer Dieu? Est-ce que c'est une véritable adoration? Et ce genre de choses-là. On va regarder les exigences. C'est ce qu'on va regarder lors de notre prochaine étude. Alors, on va terminer là-dessus.